autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, où que vous soyez sur notre planète, pour éclairer d'un jour nouveau toute l'histoire de notre humanité, passée, présente et à venir. En nous reposant autrement les questions les plus fondamentales et les plus universelles qui soient. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Et où allons-nous ? Rediffusion estivale de l'entretien que nous avait accordé le biologiste et généticien des populations de renommée mondiale, Luis Quintana Murci, professeur au Collège de France, directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Il nous avait proposé le 22 novembre dernier un formidable voyage dans l'espace et dans le temps sur les traces génétiques des migrations, des métissages et des adaptations qui ont façonné notre humanité. Le peuple des humains, pour reprendre le titre de son ouvrage à nul autre pareil, nous révèle non seulement que nous sommes tous métis, et ce depuis les origines, nous avons tous gardé en nous la trace d'autres formes d'humanité aujourd'hui disparues, mais aussi que notre survie et notre adaptation présente et future dépendent de tous ces métissages, sans oublier tout ce microscopique avec tous ces autres vivants qui vivent à l'intérieur de nous. De quoi nous donner le vertige autour de la question d'où venons-nous, que sommes-nous et où allons-nous ? Bienvenue sur nos traces, celles du peuple des humains.
Pour résumer, qu'avons-nous appris en étudiant les génomes des humains d'aujourd'hui et des humains disparus ? Nous apprenons peut-être plusieurs choses. Mais je pense qu'il est important de souligner que la leçon est que nous nous sommes toujours mélangés. Nous nous sommes mélangés avec ces premières formes d'humains, peu importe où nous nous sommes rencontrés et où nous nous sommes mélangés depuis.
C'est le professeur Svante Paabo du Max Planck Institute, le décrypteur du génome de Néandertal et de Denisova, qui nous rappelait ici même à quel point nous sommes tous mélangés, tous métis, nous le peuple des humains. Pour reprendre le très beau titre de votre ouvrage inspirant, hein, professeur Luis Quintana Murci, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager, j'ai envie de dire, presque 20 ans hein, de recherche et de découverte sur les traces génétiques des migrations, des métissages et des adaptations. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de génomique et évolution et que vous dirigez l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Votre spécialité, Luis, c'est l'étude de la diversité du génome à travers les populations humaines et en relation avec les maladies infectieuses. Autant dire que vous êtes au cœur, au fond, de toutes les questions actuelles d'adaptation, car il y a, Luis Quintana Murci, en nous, alors dans nos gènes, même si nous ne sommes pas que nos gènes, et vous ne cessez pas de le rappeler également, il y a en nous là et les traces de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui nous ont façonnés, y compris des inattendus comme les microbes et les virus.
Exactement. Nous ne sommes pas autre chose que, on va dire, les descendants de tous ceux qui ont survécu les guerres du passé, de tous ceux qui ont survécu aux grandes épidémies, comme la tuberculose, la grippe espagnole, la peste. Et nous sommes, nos génomes actuels ne sont qu'un reflet de cette survie, de cette résilience, il y a un reflet, il y a un mosaïque de tous nos ancêtres.
Ça se voit, ça se lit dans le génome, dans nos gènes, dans le décryptage du génome humain. Comment ça se voit, ça ? Ce sont des traces. Qu'est-ce que vous voyez en tant que généticien des populations ?
En gros, en tant que généticien de population, quand on séquence le génome, que sont 3 milliards de bases, donc 3 milliards de lettres, G, A, T, C, il y a certaines combinaisons dans ce génome que sont plutôt d'origine africaine, par exemple, ou certaines combinaisons que sont plutôt d'origine asiatique ou européenne ou néandertalienne. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut reconstruire qui sont nos ancêtres, et c'est grâce à ces études à niveau génomique qu'on sait aujourd'hui que si on veut répondre d'une façon courte et concise, on n'est que des métis. Tous, il y a différents niveaux.
On n'est que des métis, on est tous des métis, Et on est tous des Africains aussi, on peut le dire comme ça. Hein.
Déjà, on est tous des Africains, voilà. Parce que la génétique, mais aussi l'anthropologie, l'archéologie, ont montré que l'homme s'est originé en Afrique il y a environ 300 000 ans. On ne sait pas très bien où en Afrique encore, mais ce qu'on sait, c'est que l'homme a quitté l'Afrique relativement récemment. C'est-à-dire, il n'y a que 60 000 ans pour peupler la reste du monde. Donc déjà... vous et moi, par exemple, d'origine européenne, nous portons cette africanitude dans nos génomes, déjà. Parce que nous tous, hors d'Afrique, nous ne sommes pas autre chose qu'un sous-ensemble d'Africains qui sont partis il y a 60 000 ans. Et après, le métissage n'a fait que commencer. Parce qu'on a rencontré d'autres formes humaines, comme l'homme de Néandertal en Europe, comme l'homme de Denisova en Asie, avec qui on sait qu'on s'est métissé aussi. Et déjà, il y a plein d'autres événements, que ça, déjà qu'en Europe, que c'est des populations qui ont l'air assez homogènes, on est le résultat d'au moins quatre composants génétiques différents.
Au moins, rien qu'en Europe, quatre composants génétiques différents, dus à nos métissages, dus à nos migrations et dus, le succès évolutif, à l'adaptation de ces différents métissages, c'est ça ?
Absolument, tout à fait. C'est-à-dire, nous, déjà en Europe, on porte la composante néandertalienne, qui fait environ 2,5% de notre génome. On porte la composante génétique qui vient des premières sapiens qui sont arrivées en Europe, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. On porte les traces génétiques des fermiers du Moyen-Orient qui sont arrivés il y a environ 10 000 ans. Ils ont amené l'agriculture en Europe. Et on porte les traces génétiques aussi d'une quatrième composante, que c'est ces peuples yamna, de la culture yamna, qui sont venus des steppes de l'Est de l'Europe, il y a environ 4000, 5000 ans. Et ça, on le sait que grâce à la génétique, par exemple. Et cette dernière migration aurait amené probablement les langues indo-européennes qu'on parle la plupart de nous aujourd'hui.
Donc on parle pour cela, on a longtemps parlé de grandes invasions barbares, ce qui n'est pas du tout... Enfin, c'est un drôle de terme, puisqu'en fait, ce sont eux qui nous ont fait, on est eux. Autre paradoxe assez contre-intuitif que nous apprend la génétique, vous l'avez dit, nous sommes tous africains et on a tous un peu d'africanité en nous, alors un peu seulement en Europe. Et c'est sur le continent africain qu'il y a la plus grande diversité génétique. Expliquez-nous ça, Louis Scutella-Morsi.
Bien sûr, sur le continent africain, il y a pas, c'est un continent extrêmement riche en termes de biodiversité, déjà tout court, en termes culturels, en termes linguistiques et en termes génétiques aussi. Simplement parce que l'homme s'étant originé il y a environ 200 000, 300 000 ans en Afrique, après l'homme sort d'Afrique il y a 60 000 ans, mais les Africains, évidemment, continuent à évoluer et se développer et se métisser entre eux ou pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est où on trouve plus de diversité génétique.
Alors, autre découverte étonnante, on y reviendra certainement, mais que vous avez faite notamment dans votre laboratoire et qui concerne la Polynésie, je crois, sur des liens aussi, enfin, des liens entre populations, des métissages, des migrations assez inattendues et dont on retrouve la trace aujourd'hui. Dans le génome des Polynésiens que vous étudiez.
Exactement, c'est plutôt les Mélanésiens.
Ah, c'est les Mélanésiens,
les Mélanésiens, pour l'instant, mais on a une étude, qu'on peut en parler si vous voulez, sur les Polynésiens en cours. Mais on a travaillé beaucoup sur l'Océanie proche et un peu de la lointaine. En gros, les îles Solomon, les îles Vanuatu et toute cette partie avant d'arriver éventuellement en Polynésie. Et ce qu'on a montré, et surtout l'intérêt de cette région, c'est que les populations de cette région montrent le niveau le plus élevé au monde d'ADN provenant de formes humaines aujourd'hui disparues. Parce qu'ils ont, comme nous tous hors d'Afrique, le 2,5% d'origine néandertalienne, plus ce qu'ils ont acquis en se métissant avec l'homme de Denisova. Et ce qu'on a montré, c'est que tandis qu'au Pacifique, le pourcentage, la proportion en origine néandertalienne est très homogène entre populations, tout le monde entre 2,2 et 2,9% de leur génome, la proportion en origine denisovien est extrêmement hétérogène. Ça peut aller de 0% à Taïwan et dans certaines populations des Philippines, à 3,2% en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Vanuatu. Et plus intéressant encore, parce que la question qu'on s'est posée après, c'est « Ok, c'est très bien tout ça, mais quels sont les gènes et les fonctions que tout ce matériel dit archaïque affecte, influence ?» Et on a trouvé que tandis que l'héritage néandertalien est associé à des phénotypes très divers, chez l'homme d'aujourd'hui...
C'est-à-dire à des types physiques très différents.
Très différents, comme ça peut être la pigmentation de la peau, des fonctions métaboliques, le développement neuronal. L'héritage des Nisoviens est presque exclusivement relié à la réponse immunitaire contre les pathogènes. Ce qui suggère, plus généralement, que l'homme, comme l'homme a quitté l'Afrique, en se métissant avec Néandertal très vite, il a probablement acquis tout un set, on va dire, un groupe de mutations qui lui ont permis de mieux s'adapter à aux nouveaux environnements qu'il a rencontrés. Parce qu'il a rencontré le froid de l'Europe, les nouveaux pathogènes qu'il a rencontrés. Et c'est fur et à mesure qu'il va vers l'Asie du Sud-Est qu'en se métissant avec l'homme de Denisova, il a acquis encore d'autres mutations qui ont permis à ces sapiens-là de mieux résister les pathogènes locaux qu'ils avaient rencontrés.
On va voir que ce n'est pas toujours le cas ou que des fois certaines résistances sont bénéfiques à certains moments et moins à d'autres. Autour de la question d'où venons-nous, question centrale, énorme, où nous ont emmené nos migrations aussi, hein, que sommes-nous et non pas qui sommes-nous, on va y revenir. Je propose tout de suite une nouvelle question soulevée par la journaliste scientifique et autrice Aline Richard-Zivolava.
Oui, aujourd'hui, si on a bien compris, on s'aperçoit qu'on est, nous, sapiens, on est une espèce hybride. On a du Néandertal en nous, on a du Denisova en nous, on a peut-être aussi d'autres espèces qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est intéressant, cette notion de créatures hybrides, c'est intéressant de nous voir comme ça et de nous projeter aussi dans l'avenir en tant que créatures hybrides.
Est-ce que ce mot vous parle, hybride, l'hybridation, Louis Quintana Mursi ? Moi, à vous lire, en lisant Le Peuple des Humains, il faut reconnaître que c'est bouleversant parce qu'on se rend compte à quel point on est multiple. Je ne sais pas si j'aurais dit hybride. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je n'aurais pas dit hybride. Je pense que je ne l'utilise même pas une seule fois dans le livre. Mais bon, après, c'est une question de terminologie. C'est comme dire hybridation entre deux espèces. Mais la preuve, si on sait hybrider nous et Néandertal, c'est qu'on n'était pas deux espèces différentes, parce qu'on a eu des enfants fécondes, raison pour laquelle vous et moi, on est toujours là, aujourd'hui.
Donc quand on parle d'espèces ou d'autres espèces humaines archaïques disparues, vous préférez dire, je crois, d'autres formes humaines, c'est ça ? Parce qu'au fond, ce n'est pas nous, sapiens, mais ce sont, c'est pas une autre espèce non plus, c'est entre les deux, ou alors c'est le vocabulaire qu'il faudrait changer.
Mais... Exact, le concept d'espèce est très strict parfois. Et je préfère parler de forme humaine aujourd'hui disparue ou forme humaine archaïque, mais tandis qu'en anglais, archaïque n'a aucune connotation négative, chaque fois que je le dis en français, je me retiens un peu parce que j'ai peur que ça soit mal compris.
Or, ces humanités archaïques n'étaient pas moins développées que
nous. Non, absolument pas. Quand on dit archaïque, ça veut dire aujourd'hui disparu. Donc peut-être c'est une mauvaise utilisation du mot, effectivement.
Et est-ce que justement la génétique ne pourrait pas nous aider aussi à comprendre pourquoi et comment certaines formes d'humanité qui existaient aujourd'hui sur la Terre, on a cité les Denisoviens, les Néandertaliens, n'existent plus aujourd'hui ou ont disparu à notre profit, enfin le nôtre. Les Homo sapiens qui nous ont précédés, ils ont été quoi ? Plus fort, plus envahissant, plus adapté.
Là, c'est une question très énorme, difficile à répondre. Mais souvent, j'aime bien paraphraser Jean-Jacques Hublin, paléanthropologue et collègue au Collège de France, que j'aime beaucoup la façon dont il répond à ça, qu'il dit qu'il ne faut pas se poser la question de pourquoi Néandertal est disparu. Il ne faut pas se poser la question de pourquoi Denisova est disparu. Il faut se poser la question de pourquoi, où que Sapiens aille, toutes les autres espèces disparaissent.
Ah, c'est ça.
Sapiens va à l'est de l'Asie, Denisova disparaît. Sapiens arrive en Europe, Néandertal disparaît. Sapiens va en Indonésie, l'homme de Flores disparaît. Donc, Sapiens, on est une espèce cosmopolite mais invasive.
Sapiens, une espèce cosmopolite, oui, très mélangée,
ouais,
et invasive,
ouais,
qui finalement, personne, aucune autre forme humaine ne résiste sur son passage, c'est
ouais,
ça. Hein.
Parce que c'est pas très très glorieux pour nous. Hein.
Absolument, on en vient du coup à votre seconde énorme question autour de laquelle nous tournons, et ouverte par votre ouvrage « Le peuple des humains » aux éditions Odile Jacob, dont je vous le rappelle, chers amis auditeurs, nous avons un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Donc on a dit d'où venons-nous, et puis on dit aussi que sommes-nous, et non pas qui sommes-nous. Vous changez, vous détournez un petit peu la question et vous allez nous expliquer pourquoi, Luis Quintana Murci, juste après cet éclairage qui va évidemment nous éclairer, d'un autre biologiste de l'évolution, Samuel Alison, chercheur CNRS à l'Université de Montpellier et auteur aux éditions du Seuil de ses graphes, Dr Darwin, point d'interrogation, l'évolution, les microbes et nous, éclairage recueilli par Charlie Dupuy.
En fait, ce que ça pose comme question, c'est la question de qu'est-ce que l'individu ? L'individu biologique, parce que jusque récemment, l'individu biologique, c'était facile, c'était nos cellules qui forment un être unique. Ces bactéries qu'on a dans l'intestin, ou par exemple sur les organes génitaux, ou dans la bouche, le système immunitaire les tolère en fait. Mais voilà, maintenant de plus en plus, on se rend compte que finalement, sans ces bactéries et sans ces virus, on se rend compte que sans ces micro-organismes, finalement, on ne peut pas fonctionner. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce que l'individu ? Est-ce que ces micro-organismes appartiennent à notre individu ou pas ?
Question qui transparaît aussi dans votre ouvrage, hein, Le peuple des humains, Luis Quintana Murci, dans ce chapitre intitulé « Des microbes et des hommes » et qui renouvelle hein, cette grande question. C'est pas qui sommes-nous, mais que sommes-nous ? Que sommes-nous, nous, le peuple des humains ?
Ouais, déjà, la raison pour laquelle je dis « que sommes-nous », on la doit déjà à Paul Gauguin. Parce que le titre de son chef-d'œuvre, c'est « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Et où allons-nous ? »
Ah, il avait déjà la prescience ou l'intuition.
Ouais, et le « que sommes-nous » dans sa peinture, dans son tableau, est illustré par la relation des jeunes avec la nature. Mais dans le cadre de ce que j'explique dans un des chapitres du livre, « Le peuple des humains », c'est « nous sommes notre génome », que notre génome déjà est un mosaïque de plein de génomes de nos ancêtres, y compris les Néandertaliens ou les Denisoviens si on va en Asie, mais nous vivons aussi avec d'autres génomes, c'est-à-dire tous les génomes de toutes les bactéries qui vivent dans notre intestin ou simplement sur notre peau, sans qui on ne pourrait pas vivre. Et donc, ce microbiote, ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle notre métagénome.
C'est-à-dire, métagénome, c'est notre génome, celui hérité de nos ancêtres, de notre mère, de notre père et de tous ceux qui nous ont précédés et aussi de ceux qui nous font vivre.
Exactement. C'est-à-dire, on a notre génome à nous, humain, on va dire, que déjà, il est très métissé, on va dire. Mais en plus, on a le génome de toutes les petites bêtes qui vivent en nous, toutes les bactéries qui sont sur notre peau. Et ça fait plein d'autres génomes.
Ça fait plein de monde et plein de gènes, c'est insensé.
Oui.
Et ça, vous pouvez travailler et étudier ça aussi. C'est-à-dire que ces génomes des différentes bêtes ne sont pas les mêmes sous toutes les latitudes, ont aussi un lien. Enfin, tout ça est évidemment interdépendant. On pourrait presque dire des sortes d'écosystèmes.
Exactement. C'est-à-dire, c'est la diversité des génomes et de microbiotes, que sont tous ces microbes qui vivent avec nous, dépendent de plein de choses différentes, dépendent du climat, dépend évidemment de ce qu'on mange, dépend de notre génome à nous-mêmes, parce qu'il faut que ça cohabite, les deux. Donc, d'ailleurs, on a une étude en France, chez les Bretons, qui s'appelle « Milieu intérieur », où on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui participent à la variabilité de notre microbiote. Et on a trouvé que les deux facteurs, mis à part la nutrition évidemment, mais les deux facteurs majeurs qui influencent déjà en France le microbiote des individus, le microbiote intestinal en l'occurrence, c'est l'âge et le fait d'être un homme ou une femme.
Déjà ça fait des différences. On est donc, quand vous dites métisse, on est métisse à plein de sens du terme et à tous les niveaux. Ouais. C'est complètement fou. Et c'est donc tous ces autres êtres, microbes ou virus qui vivent avec nous, On s'est adapté, ils se sont adaptés. Vous parlez parfois de course aux armements. Mm-hmm. Vous avez évoqué ce gène de Néandertal que nous, Européens, possédons tous en nous. Ça, c'est une révélation assez récente, finalement. Un gène de Néandertal qui nous a permis, enfin je le fais très brutalement, de nous adapter au froid, aux microbes, aux virus qui étaient liés au froid, qui nous a conféré une certaine immunité, mais qui se révèle, alors là c'est depuis 2019 qu'on le découvre, avec l'épidémie qui frappe la planète entière, qui se révèle peut-être un peu délétère ou qui ne nous servirait pas face à ce nouveau virus SARS-CoV-2, c'est ça ?
Tout à fait. Il faut d'abord clarifier que la plupart de l'ADN néandertalien qu'il y a un nom est soit neutre, ça veut dire il ne sert pas à grand chose, et c'est pour ça qu'on l'a toléré, soit dans la plupart des cas, c'est avantageux, c'est pour ça qu'on l'a gardé. C'est d'ailleurs dans mon laboratoire qu'on a découvert que c'est une partie au sein de ces 2,5% d'origine néandertalien qu'il y a dans nos génomes. Il y a une grande partie de mutations qui sont associées à une meilleure réponse contre les virus. Et notamment, ça a été montré que le métissage avec l'homme de Néandertal a été avantageux pour les premiers Européens pour lutter contre les virus ARN. Et sont qui les virus ARN ? Le virus de la grippe ou le SARS-CoV-2 à la base du Covid-19. Mais qu'est-ce qui se passe ? Que ce qui a été avantageux il y a 40, 50 000 ans, quand on se métissait avec l'homme de Néandertal, avec les changements de mode de vie et ou l'arrivée des nouvelles maladies, peut se révéler un fardeau. Et or, ce que l'équipe de Svante Paabo, que je raconte dans un chapitre de ce livre, a trouvé, c'est que on a un haplotype.
Un
haplotype n'est pas autre chose qu'une combinaison de mutations.
Okay.
Et on a cette forme de gène, on va appeler, qui est présente dans 16% des Européens, 50% des Indiens et 62% des gens d'origine du Bangladesh. Du Bangladesh, oui. Et alors, ce qu'ils ont montré, c'est que cette région-là est héritée de Néandertal. Et aujourd'hui, elle augmente de 60% nos chances d'être hospitalisés dues à un Covid-19 sévère.
Comme quoi la génétique, enfin, j'ai envie de dire, sert à tout. Et en même temps, Luis Quintana Morsi, dans ce voyage incroyable, hein, le peuple des humains, on part des humanités archaïques, de Néandertal jusqu'au SARS-CoV-2 qui nous touche actuellement. Et en même temps, vous ne cessez de dire aussi que nous ne sommes pas du tout qu'un sac de gènes et que la part génétique est très importante, mais que la part culturelle aussi influence énormément.
À plusieurs niveaux, bien sûr. D'une part, on n'est pas en boîte à gènes ou en sac à gènes par rapport à notre identité culturelle. Une chose, c'est ce que nos origines génétiques, et autre chose, c'est ce que nous ressentons que nous sommes.
C'est ça.
On peut se sentir... Ça revient à chacun, l'identité culturelle. Et ce n'est pas parce que vos gènes vous disent que vous êtes de telle ou telle origine, ou vous êtes plus ou moins métissé avec je ne sais pas quelle population. Si vous vous sentez breton, vous êtes breton. Point. Et à un autre niveau aussi, ce que nous sommes à niveau physique, à niveau de nos relations aux maladies, notre vulnérabilité à développer aux maladies infectieuses, n'est pas que dictée évidemment par nos gènes. Moi, je dis toujours, il ne faut pas non plus ni glorifier, ni diaboliser la génétique.
C'est ça.
C'est ce que nos gènes disent, plus notre relation au monde, notre mode de vie, ce qu'on mange.
Avec qui on interagit.
Exactement.
Voilà pourquoi on pourra répondre à plusieurs questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, autour de la question d'où venons-nous, que sommes-nous et où allons-nous, et pourquoi, comment tout cela peut en partie se lire dans notre génome, dans nos gènes et dans notre ADN. On vous a déniché tout de même, Luis Quintana Morsi, une petite pépite musicale. Vous nous avez mis au défi, hein, d'ailleurs, de vous faire découvrir d'autres musiques métisses. Alors cette fois-ci, c'est la brésilienne de Paris, Flavia Coelho, qu'on vous glisse entre les deux oreilles, et pas n'importe quel titre de cette petite bombe musicale à tous les sens du terme. C'est DNA, autrement dit en francophonie ADN, et en version originale brésilienne sur RFI.
« De noite e de dia, você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você é constituído numa célula de amor. Riqueza exuberante que vem do interior.
L'ADN brésilien, mais pas que, de cette chanteuse brésilienne qui vit à Paris, Flavia Coelho sur RFI. C'est pour vous cadeau, cher professeur Luis Quintana-Morsi.
C'était un bijou.
Un petit bijou de métissage, puisque nous sommes tous métis. Voilà ce que l'on découvre dans votre ouvrage, hein, Le peuple des humains, dont je vous rappelle, chers amis auditeurs, nous avons un exemplaire à vous offrir. C'est sous-titré sur les traces génétiques d'émigration, métissage et adaptation. On l'a dit, tout ça est à la fois génétique et culturel. Quels ont été pour vous, au cours de votre carrière hein, de chercheur, vous êtes en plein dedans, professeur au Collège de France et directeur de recherche à l'Institut Pasteur, quelles ont été peut-être les plus grandes surprises, étonnements? On a l'impression quand même qu'on a été de découverte en découverte avec une humanité toujours plus diverse, buissonnante, métissée, migrante. Et puis on a l'impression aussi qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte et à intégrer tout ça, nous pauvres humains. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour vous, chercheurs, quelles ont été, oui, peut-être les plus grandes émotions, étonnements dans toutes ces recherches et tous ces travaux?
Moi, je pense que si je devais en choisir une, c'était le fait de voir que le métissage avec l'homme de Néandertal a été avantageux pour nous. Que le métissage avec l'homme de Néandertal, grâce à ce métissage, on a pu survivre mieux les infections et les maladies infectieuses.
Au fond, c'est les pistes que ouvrent vos recherches, finalement. On a beaucoup attendu de la génétique, hein, peut-être trop à un moment. Et en même temps, les généticiens des populations que vous êtes nous font découvrir tous les jours des choses étonnantes et qui pourraient aider enfin, l'histoire de notre passé, de notre présent et pour
et
notre,
de
futur.
Notre futur.
C'est ça. Hein.
Mais bien sûr, parce que pourquoi je dis que ça m'a beaucoup surpris? Parce que n'oublions pas qu'il y a encore 12 ans, on ne savait même pas qu'on s'était métissé avec Néandertal. Il y a 10 ans, on ne savait même pas que l'homme de Denisova existait.
C'est vrai.
C'est pour ça que j'aurais pas pu écrire ce bouquin il y a 10 ans ou 15 ans. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce moment, c'était idéal pour l'écrire. On a accumulé une telle quantité d'informations qui a complètement changé notre façon de voir l'histoire de qui nous sommes, en effet.
Alors justement, à propos de l'histoire de qui nous sommes et à propos justement de nos relations et nos adaptations aux maladies infectieuses, c'est vraiment votre spécialité. Comment les humains se sont-ils immunisés ou pas contre certains pathogènes et notamment contre certaines maladies transmises par les moustiques? Comment certains se sont adaptés, mal adaptés ou pas? Et pourquoi c'est une question aussi ancienne, j'ai envie de dire, que le fléau du paludisme, que vous pose le bioanthropologue Stéphane Mazière. Alors lui, il a participé à une étude transdisciplinaire dans son laboratoire CNRS à Marseille, qui a montré que nos ancêtres disparus, donc néandertaliens ou dénisoviens, étaient comme nous, dotés du même système sanguin ABO, d'où la question que vous pose Stéphane Mazière, relayée par ses collègues, la paléoanthropologue Sylvana Condemi et Jacques Kéroni de l'établissement français du sang.
Au laboratoire à Marseille, avec Jacques Kéroni, on se pose la question sur l'adaptation du paludisme. C'est un phénomène qui quand même marque profondément la diversité génétique des populations à différents niveaux. Il y a différentes réponses, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie du Sud-Est. Le globule rouge réagit de différentes façons. Il se saborde, il se camoufle. Et la date, alors ce qui est compliqué, c'est qu'en plus en Afrique, la démographie, enfin l'histoire des populations est tellement brassé, ça va, ça vient, les populations des chasseurs-cueilleurs deviennent agricultrices, puis redeviennent chasseurs-cueilleurs, etc. Les expansions des Bantous, enfin tout ça brasse un peu le signal. Il est quand même un peu compliqué d'y voir clair, mais est-ce qu'il est possible de mettre une date en Afrique et en Asie du Sud-Est sur l'adaptation au paludisme?
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'on sait quand, comment certains humains, donc en Afrique, en Asie, ont pu s'adapter ou résister?
Ouais, je peux répondre partiellement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai dédié un chapitre dans le livre, mm-hmm. si je me rappelle bien, s'appelle « L'amour au temps du paludisme ».
Absolument.
Et c'est parce que, une fois de plus, ce qu'on a montré au laboratoire, d'ailleurs, ici, c'est que le métissage entre les peuples bantous d'Afrique centrale et les peuples de chasseurs-cueilleurs de la forêt, dites pygmées, a été bénéfique pour les deux. Donc, entre eux, se sont échangés des mutations que leur ont permis de mieux résister au paludisme. De leur métissage avec les pygmées, les bantous de l'Afrique centrale, ils ont acquis une mutation dans un gène, peu importe, qui s'appelle CD36, qui aide à mieux survivre le paludisme. Et quand les bantous commencent à avoir des contacts avec les pygmées lors des fameuses expansions bantous, qu'en plus ils commencent à faire de la déforestation, donc ça veut dire qu'ils ouvrent des avenues pour que les moustiques puissent transmettre le paludisme.
Oui.
Mais donc, là, les bantous ont amené le paludisme aux populations pygmées, mais aussi ils ont amené la façon d'y résister. C'est-à-dire la mutation S dans le gène de l'hémoglobine, qu'on sait que c'est un facteur de protection contre le paludisme. Et ça s'appelle l'hypothèse poison-antidote.
Poison-antidote,
c'est-à-dire,
ça. On vous amène le poison, mais on vous amène l'antidote dans nos gènes. Enfin,
la seule contrainte, c'est qu'il faut faire l'amour entre eux. Il faut qu'ils se métissent.
Voilà, c'est ça.
Et il faut s'échanger ces mutations. C'est pour ça que j'ai appelé l'amour au temps du paludisme.
Finalement, la leçon, c'est magnifique, mais quand on pousse un peu plus loin le raisonnement,
c'est
vraiment vive le métissage. Et le métissage, ça peut se faire, on le sait très bien, quand c'est entre deux, dans la même espèce, on sait très bien que c'est en faisant l'amour. Et du coup, c'est vraiment l'intérêt du métissage, c'est-à-dire du brassage de gènes, parce que finalement, ce sont quoi? Peut-être pas les plus forts, mais ceux qui résistent le mieux, qui l'emportent, qui sont le plus adaptés finalement.
Oui.
Et c'est la diversité.
C'est la diversité, c'est s'échanger la diversité. Ça ne peut être que bien. Et j'insiste, parce que souvent, parfois, on voit des gens qui réagissent en disant « Ce monsieur, c'est-à-dire moi, il a une idéologie derrière. » Moi, je vous rappelle que j'ai aucune idéologie. Moi, je suis un scientifique. Je raconte ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est des métis à différents niveaux dans l'espace géographique et dans le temps. Après, que les gens l'interprètent comme ils veulent. Et ce que j'observe, pas que moi, la communauté scientifique des généticiens, c'est que le métissage peut être adaptatif. C'est-à-dire, le métissage, c'est un facilitateur de l'adaptation à l'environnement. Et en l'occurrence, les exemples que je donne plus tôt, c'est l'environnement
pathogénique.
Parce que c'est vraiment votre spécialité. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs et je veux bien vous faire réagir là-dessus. Luis Quintana Mursi, notamment la marana de Conakry en Guinée ou Sida de Bafoussam au Cameroun, qui nous dit, mais finalement, alors pourquoi est-ce qu'il y a des races avec tous les guillemets possibles? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle diversité de races, de couleurs de peau? Alors on n'emploie pas ce mot-là et ce n'est pas ce mot-là que vous employeriez, mais finalement... Comment expliquer une telle diversité?
Bien sûr. Mais c'est une question très bonne. Hein. Et d'ailleurs, même si on parlait des couleurs de peau, ce n'est pas grave.
C'est ça. Merci, que... oui, c'est ça. Non, on n'ose même plus. C'est incroyable.
On n'ose même plus. Et je pense qu'il faut qu'on s'habitue. Race, certes, il n'y a pas de race, parce que le concept de race sont des populations qui ne se mélangent pas entre eux et qui sont presque... extrêmement différents génétiquement. Or, les populations humaines, que ce soit des Africains, des Européens ou des Asiatiques, sont très proches génétiquement. Et pour répondre à cette auditrice, pourquoi alors il y a de la diversité de ce qu'on appelle phénotypique en jargon, c'est-à-dire ce qu'on ressemble, la pigmentation de notre peau, notre taille, ce qu'on est plus grand, plus petit, la couleur de nos cheveux. Ça se joue à très peu de gènes. Et c'est juste ça. Et c'est trop peu de gènes que nous distinguent. Ils nous font visiblement différents. Ce sont des gènes qui ont participé simplement à notre adaptation. Quand on sort d'Afrique, on commence à perdre la pigmentation de la peau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de synthétiser la vitamine D et on a besoin que le soleil fasse plus d'effets parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc, on a besoin de perdre notre pigmentation. Donc, nos différences physiques, pour la plupart, ils reflètent nos différentes adaptations aux différents environnements que notre espèce a peuplés.
Alors, sur quelle échelle de temps? Parce que ça aussi, c'est une question qui peut revenir et qui nous concerne tous. Vous êtes généticien, vous travaillez aujourd'hui sur des populations existantes, sur les traces des migrations, des métissages et des adaptations dans leurs gènes. Sur quelle échelle de temps on peut voir justement des transformations phénotypiques de couleur, de peau, de cheveux, de taille, de poids?
Quelques milliers d'années.
Ah, il faut quand même. Il faut quelques milliers d'années.
Oui. Après, je parle, si on parle d'une adaptation génétique à un environnement donné qui va entraîner une modification de notre physiologie ou notre apparence. Après, culturellement, n'oublions pas non plus, on peut s'adapter beaucoup plus vite. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas la mutation qui nous permet de digérer le lait. À l'âge adulte. On n'a qu'à faire du yaourt et là, on peut le boire. Suite.
C'est ça. Donc on a des moyens culturels ou avec des outils pour nous adapter beaucoup plus rapidement, pour nous transformer finalement.
Comme les vaccins ou les antibiotiques. C'est une façon culturelle. N'oublions pas que les hommes et les femmes, on est une espèce ingénieuse et créative. Donc on va trouver toujours une façon de s'en sortir. En tout cas, j'aime bien véhiculer. Ça, c'est mon côté subjectif, c'est positivisme.
Merci, ça fait du bien, cher Luis Quintana Mursi, ça fait du bien de lire Le Peuple des Humains, votre ouvrage. On continue de s'interroger autour de la question, des questions énormes. Hein. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? Je rappelle d'ailleurs que le « Que sommes-nous ?» vous citiez Gauguin, est en couverture, le tableau de Gauguin est en couverture de cet ouvrage paru chez Odile Jacob. Mais je propose d'abord d'écouter une autre perle musicale, une double perle, puisque celle des sœurs IBI sur RFI, Lisa Kende et Naomi, françaises, d'origine... vénézuélienne, cubaine et tunisienne, ça devrait vous plaire ça, qui nous transporte et nous enchante, extrait de leur deuxième album, ce titre qui semble fait pour vous, Luis Quintana Mursi, I Carried This For Years, IBI sur RFI.
Yeah.
sacré héritage des IBI sur RFI, I Care It This For Years. Louise Quintana-Morsi, je rappelle que vous êtes généticien des populations, professeur au Collège de France et directeur de l'unité de recherche génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Et pour écrire cet ouvrage, donc Le peuple des humains, Louise Quintana-Morsi, vous l'avez écrit en français, mais j'ai envie de faire un petit focus sur vous et vos origines métissées, elles aussi. Alors, on reste en Europe, mais vous êtes franco-espagnol, votre langue maternelle c'était le catalan, vous avez étudié en Italie, ensuite en France, votre langue scientifique de chercheur c'est l'anglais, ouais. Et vous avez écrit cet ouvrage en français, Le peuple des humains.
Et là, je ne voulais pas, parce que j'étais un peu bloqué dans l'écriture du français, et là je dois donner la paternité de ça à Odile Jacob, qu'elle m'a obligé à l'écrire en français, en me disant « Vous n'avez qu'à écrire quand vous parlez. Quand vous parlez, c'est clair. Et c'est toujours, vous savez transmettre la passion de ce que vous faites. Donc, vous écrivez. Et après, s'il y a des fautes, on va les corriger. » Et donc, c'est ça que je suis très reconnaissant à cette forcing qu'elle a fait. Parce que maintenant, je n'ai plus peur d'écrire en français.
Parce que sinon, vous êtes, si on vous dit d'où venez-vous, alors vous venez d'Espagne, de Catalogne, de France, d'Italie, de... Enfin voilà, vous, votre langue, votre... Vous qui parlez du... Oui, vous êtes d'où, Louise Quintana-Morsi?
Je suis un peu... Je me sens profondément européen et méditerranéen aussi, parce que j'ai grandi malgré tout à Majorque, à l'île de Majorque. Et je parle catalan avec mes parents, avec la plupart de mes amis. Mais si on me dit « qu'est-ce que tu es aujourd'hui ?», je dis franco-espagnol parce que mon présent est français quand même. Ça fait, malgré mon accent, 22 ans que j'habite à Paris. J'adore, c'est un choix de vie. Et voilà, oui, ça me plaît ce côté franco-espagnol.
Bien que je vous rappelle, c'est en anglais que vous publiez vos études, vos découvertes et vos nombreuses publications scientifiques.
Que d'ailleurs, c'est la seule langue que je me sens vraiment libre quand j'écris.
L'anglais.
Ouais.
Autour de la question d'où venons-nous, que sommes-nous et surtout maintenant, où allons-nous? Voilà, on y arrive. Hein. Où allons-nous? On y arrive avec une autre généticienne des populations que vous connaissez bien, Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique des populations humaines au Muséum, directrice scientifique du Musée de l'Homme, autrice entre autres de l'Odyssée des gènes. Écoutez sa question, elle est pour vous, Louise Quintana-Morsi.
Bonjour Louise, j'ai une question, c'est le futur. Donc, que va devenir l'homme? Comment va-t-il évoluer? Est-ce que tu crois que maintenant qu'on a finalement des échanges avec des populations plus éloignées, hein, l'homme a toujours migré, mais là on voit qu'on a des migrations à beaucoup plus longue distance, est-ce que tu crois que ça va jouer sur notre évolution? Et si oui, dans quel sens?
Que pouvez-vous répondre, Louise Quintana-Morsi, sur l'avenir du peuple des humains, pour paraphraser le titre de votre livre?
Oui, je pense qu'on va vers une espèce de plus en plus métissée, comme Evelyne Heyer évoque déjà. On va vers une espèce où il y a beaucoup d'interactions aussi avec tous les progrès de la médecine. Parce que quand on dit, c'est quoi l'impact de ça sur l'adaptation? Mais n'oublions pas que dans beaucoup d'endroits au monde, malheureusement pas tous, on utilise beaucoup les vaccins et les antibiotiques. Ce qui fait qu'on a passé juste de, il y a 100 ans, que 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans en Europe. Aujourd'hui, 98-99% de la population européenne arrive à l'âge de 40 ans.
Donc on s'adapte et on vit beaucoup plus longtemps.
Oui, on vit beaucoup plus longtemps. Et oui, et je pense alors qu'il va falloir être toujours ingénieux et créatif, parce qu'en médecine, on a appris à allonger la vie, mais on n'a pas encore complètement appris à allonger la qualité de la vie. La bonne vie. Parce qu'il y a plein de maladies qui sont apparues simplement parce qu'on vit plus longtemps. Donc je pense que...
Et donc comprendre finalement, décrypter notre génome, comprendre à quelles maladies on est, où on serait plus prédisposé, contre lesquelles on peut plus résister ou pas, ça peut aider justement à la fois à faire une médecine qui soit presque individuelle finalement, parce que c'est quand même ça...
Tout à fait, et c'est là que j'explique le « où allons-nous ?» C'est on va vers deux choses, j'ai envie de dire. Vers une médecine de précision, qu'on appelle, ça veut dire une médecine plus adaptée au profil génétique de l'individu, mais aussi à son mode de vie.
On n'est pas non plus une boîte à gènes, comme j'aime bien dire. Donc, certes, il y a nos gènes, mais aussi il y a notre âge, notre sexe, ce qu'on mange, notre passé vaccinal, les maladies qu'on a eues au passé. Et ça, c'est la médecine de précision. C'est-à-dire adapter les traitements au profil des individus, d'une part. Et d'autre part, on va vers une médecine, et j'espère une société aussi, plus inclusive de la diversité. Mmh. On n'est pas tous européens, blancs, aux yeux bleus et aux cheveux clairs. Et ce qui est quand même dramatique, c'est que 78% des études en génomique, et plus généralement en épidémiologie génétique, sont faites sur des Européens. Et tandis que les Européens ne sont que le 16% des habitants de la planète.
Donc il faut élargir, il faut aussi faire attention à ce que cette médecine de précision ou ces études génétiques ne soient pas réservées à une petite partie du peuple des humains, les plus riches ou les plus blancs. Enfin, c'est vraiment une question que vous coltinez, j'ai envie de dire, Luz Quintana-Murci. Et d'ailleurs, enfin, vos équipes ou la génétique des populations essayent d'élargir et d'enrôler aussi des chercheurs et des chercheuses au sud, ailleurs. Ouais. C'est une vraie question, ça. Comment élargir à toute notre véritable diversité humaine?
Nous, en tout cas, on fait ce qu'on peut par rapport à nos moyens, c'est-à-dire on s'intéresse pendant très longtemps, on a travaillé sur et avec des populations de l'Afrique centrale. Maintenant, comme j'évoquais au début, on s'intéresse de plus en plus au Pacifique. Et je pars, si tout va bien, et ça sera la troisième fois que j'y vais, en Polynésie, à Papeete, dans 2 semaines, pour retrouver les communautés, mes collaborateurs polynésiens sur place. Et c'est toujours un grand plaisir d'y aller. Mais aussi, on essaye, par exemple, mon laboratoire. Je pense que 70% de mon laboratoire est non français.
C'est ça, ça se passe à tous les niveaux. Ouais, et finalement, les chercheurs perdu. Et les populations volontaires que l'on étudie sortent un peu de l'occidental au centrisme.
Exactement,
c'est ça, hein.
Il faut former d'autres gens. On apprend beaucoup, nous-mêmes aussi, des expériences et la culture d'autres gens. Après, toute la partie économique, je ne peux pas la maîtriser, celle-là. C'est-à-dire l'argent investi dans la recherche.
C'est ça. Et ça, ça ferait une autre émission. Ça, j'en suis certaine. Ah, oui. Merci infiniment, en tout cas, Luz Quintana-Murci, d'avoir été en direct avec nous. Je ne saurais trop conseiller la lecture de cet ouvrage, un vrai grand voyage sur les traces passées et présentes des migrations, métissage et adaptation qui balaye tous les espaces-temps, hein, passé et même à venir, et qui nous réconcilie avec ce métissage dont nous sommes issus. On peut aussi citer l'ouvrage collectif du Collège de France que vous avez co-dirigé avec la professeure Vinciane Pirène Delforge, spécialiste elle du monde grec antique, Civilisation, questionner l'identité et la diversité. Chers amis auditeurs, à bon entendeur et bon voyage en Polynésie, cher Luz Quintana-Murci, et à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Autour de la question en rediffusion estivale, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un face-à-face avec notre cerveau, en compagnie d'un des plus éminents neuroscientifiques, le professeur Stanislas Dehaene. Autour de la question, comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même? Merci, chers amis auditrices et auditeurs, pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.